tous, j'ai un peu de pression hein, quand même, parce que, bon, je ne m'attendais pas à ça. Et... Je me disais tout à l'heure sur ma chaise, bon, le Seigneur, tu as mis la chauffe, tu as mis le four à 180 degrés, le soufflet, il est bien monté là, il ne faut vraiment pas que je le fasse retomber. Hein? Parce que je voudrais que nous gardions cette attitude vraiment de cœur à cœur avec le Seigneur et de ce qu'il veut nous enseigner ce matin. Vraiment, je ne voudrais pas être dans un moralisme, dans une moralité, mais vraiment dans le cœur à cœur de ce que le Seigneur veut faire avec nous, au travers de nous et pour sa gloire. Alors c'est vrai, je vais vous parler de l'humilité ce matin, de la sagesse et de l'humilité, parce que le livre des Proverbes nous parle de l'humilité. Alors, vous savez, dans notre société, l'humilité, c'est pas très fun, hein, c'est pas vendable, l'humilité. Par contre, c'est l'enseignement de notre Seigneur et c'est lui que nous voulons suivre. Alors, c'est pas très prisé ni très populaire dans notre société parce que nous préférons dans notre société parler d'estime de soi, avoir de l'estime de soi. Il n'y a pas de semaine, de mois sans qu'il y ait des conférences, des ateliers, des séminaires sur l'estime de soi. Des spécialistes sont consultés, des coachs sont payés pour tenter de nous réconcilier avec nous-mêmes et de faire de nous des hommes et des femmes fiers d'eux-mêmes et confiants en eux. Il faut travailler son estime de soi, il faut s'exercer à l'augmenter, et le manque d'estime de soi est considéré comme une maladie, un trouble qu'il faut soigner. L'exaltation du moi est reconnue comme la source de la réussite. Alors tout nous pousse dans notre société à nous mettre en avant, à étaler nos performances, à imposer notre personnalité. L'estime de soi, vue comme cela, n'est pas très loin alors de l'affirmation de soi. Et l'affirmation de soi se fait souvent au détriment eh bien, des autres. L'affirmation de soi se fait dans la compétition, avec les autres, on rabaisse les autres pour mieux se montrer, pour mieux s'afficher, pour mieux s'affirmer. On se compare, on se confronte, on se mesure, on s'évalue les uns les autres. Et alors, la compétition est vraiment bien réelle et engendre par ce fait-là une espèce d'insécurité intérieure dans notre société. Notre société est comme, un petit peu comme une foire d'empoigne où on doit se confronter à l'autre pour affirmer son propre ego. L'ego est au centre de l'arène. Nous sommes des fiers qui affrontons d'autres fiers. Alors, que penser de cela? Je vous fais un tableau un petit peu noir de notre société. Mais que penser de cela lorsque nous sommes chrétiens et que nous sommes confrontés à la parole de Dieu? Prions. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu nous as parlé ce matin. Tu nous as appelé un cœur à cœur. Et c'est tellement extraordinaire ce moment que nous avons avec toi, où tu nous parles, où nous te parlons, où Seigneur, où nous exprimons notre louange. Et Seigneur Jésus, rends-nous, Seigneur, dans cette attitude, Seigneur, de recevoir et d'être enseigné. Seigneur, souvent tu nous dis les choses et tu nous les répètes et tu nous les re-répètes. Parce que tu veux que ça descende au profond de notre cœur. Tu veux que ça descende au profond de notre cœur. Que ce ne soit pas simplement une belle théorie. Tu veux que ce soit vécu, du vécu dans nos cœurs. Alors Seigneur, par ton esprit, eh bien, interviens dans les paroles que je peux dire. Et enseigne-nous, parle-nous, construis-nous, transforme-nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va lire... un proverbe, puisque nous sommes dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 34, dont vous l'avez marqué ici. Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Alors, est-ce qu'il faut faire la liaison aux humbles, aux humbles? Alors, bon, si je parle mal, vous allez plus loin que ma parole, vous écoutez ce que le Seigneur a à dire, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, ce n'est pas le seul verset qui parle des humbles et de l'humilité dans le livre des Proverbes. Et vous connaissez sûrement ce verset là qui a été repris par deux fois dans le Nouveau Testament, une fois dans l'épître de Jacques et une fois dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, où la version qui a été employée, la version des Septante, c'est pour ça que nous avons une autre traduction. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors pourquoi avoir traduit « moqueur » par « orgueilleux » ? Le moqueur dans le livre des Proverbes, c'est celui qui rit au détriment des autres. C'est-à-dire quelqu'un qui prend les autres d'en haut. Et s'il prend les autres d'en haut, ça veut dire qu'il se croit supérieur aux autres. Le moqueur est un personnage qui est sûr de lui, confiant en lui et qui affiche sa supériorité. Il est en quelque part au-dessus de tous et il démontre par là son orgueil. Le moqueur, dans la Bible, prétend se passer de Dieu. Alors vous savez, les jeunes, parfois, ils se moquent les uns des autres. Ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir grandi durant une année. Parce que lorsque j'ai mis mon pantalon, vous voyez, comment on dit, on a de l'eau. J'ai dit, peut-être il y a un miracle qui s'est fait durant cette année, j'ai grandi. Mais non, ce n'est pas que j'ai grandi, en fait, c'est que mon pantalon, il a rétréci. Voilà. Les jeunes, lorsque... On peut imaginer, c'est pas que les jeunes, les gens autour de nous, et peut-être même moi, lorsque je vois quelqu'un qui est mal fagoté, je dis, putain, pétard, t'as vu comme il est mal fagoté celui-là, etc. Et on le prend un peu de haut, comme si moi, ma tenue vestimentaire était plus importante que la sienne. Et on le prend de haut. Je me moque gentiment, mais la moquerie peut aller plus loin que cette simple moquerie un peu gentille. Parce qu'on regarde... au-delà des apparences. On regarde les apparences et non pas le cœur des gens. Voilà. Alors, le moqueur, c'est celui qui rit au détriment des autres. Et parce qu'il rit au détriment des autres, il se place au-dessus des autres. Il démontre par là son orgueil. Le psaume 1, et vous le connaissez, le psaume 1, qui nous parle du banc de la compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Par contre, l'humble, la personne humble, celui à qui Dieu fait grâce, eh bien, il connaît, il sait qu'il est totalement dépendant de Dieu. Il connaît sa faiblesse, il connaît son besoin, alors la personne humble va crier, et quand la personne humble va crier, quand l'humble prie, eh bien la personne humble se tourne vers Dieu, qui l'exauce et qui lui fait grâce. Mes amis, avant que le Seigneur intervienne dans ma vie, avant que le Seigneur intervienne dans vos vies, j'étais assis sur le banc des moqueurs. Vous étiez assis sur le banc des moqueurs. Nous étions, et des femmes, sûres d'eux-mêmes, croyant pouvoir se passer de Dieu. Nous croyons même peut-être être un petit peu Dieu, puisque c'est nous qui décidions de nos vies. Et lorsque le Sauveur est venu à nous, il nous a trouvés non pas dans l'humilité, mais il nous a trouvés dans notre fierté et dans notre orgueil. Nous ne sommes pas venus à Christ parce que nous étions humbles. C'est Christ qui est venu à nous alors que nous étions dans notre orgueil, alors que nous étions des fiers. Et il nous a montré sa grâce en nous montrant en réalité ce que nous étions. La réalité spirituelle de qui nous étions. La semaine dernière, je vous ai parlé de la dureté de notre cœur, de la violence qui existe dans notre cœur. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vous pouvez écouter encore le message qui est sur le site. Et lorsque la réalité du Seigneur nous rencontre dans notre fierté, en quelque part, il nous humilie, il nous montre réellement notre pauvreté. Et alors qu'il nous montre la pauvreté de notre cœur, nous crions à lui. Et là, le Seigneur exauce et nous montre sa grâce. C'est incroyable, n'est-ce pas? Voilà, j'étais assis sur le banc des moqueurs, mais le Seigneur est venu dans ma fierté, dans mon orgueil, pour me faire grâce. Il n'y a pas deux sortes d'humanité, une humanité orgueilleuse et une humanité qui serait humble. Il n'y a qu'une seule sorte d'humanité, une humanité orgueilleuse. Et en nous sauvant, le Seigneur a brisé notre orgueil et nous a fait entrer dans la seule et véritable attitude qui convient à notre condition, celle de l'humilité qui reçoit gratuitement. On va réfléchir à une définition, si vous voulez. Alors, j'ai pas eu trop le temps d'aller voir les commentaires sur ce verset durant cette semaine. J'ai été un petit peu bousculé moi-même. Mais je suis allé voir le Larousse pour dire qu'est-ce que le Larousse nous dit sur ce qu'est l'humilité, n'est-ce pas ? J'en suis pas très satisfait de la définition du Larousse. Alors, le Larousse dit, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances et de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Voilà, bon, c'est le Larousse. Alors moi, j'ai essayé dans ma compréhension et dans mon voisinage avec la parole de Dieu de donner ma définition. Je n'ai pas trouvé de corrélation avec d'autres commentaires et tout ça. Donc voilà, c'est simplement ma définition et telle que je comprends ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est la juste et réelle appréciation, le juste regard que l'on porte sur soi-même, sur Dieu et sur les autres. Et donc j'insiste, et je l'ai mis donc en souligné, juste et réelle appréciation. Juste et réelle appréciation, c'est-à-dire qui est conforme à la réalité, avec la réalité avec un grand R. Hein ? Donc l'humilité, ce n'est pas simplement un sentiment subjectif, c'est conforme à la réalité. C'est une appréciation de soi, et j'aime le mot appréciation, j'étais content d'avoir trouvé ce terme d'appréciation de soi-même, parce que l'humilité, c'est tout le contraire de la dépréciation. C'est l'appréciation de qui on est devant le Seigneur, vraiment. C'est la pensée divine qui forme le réel. Alors si je regarde l'humilité selon le regard de l'homme, selon, je dirais, non pas la réalité avec un grand R, mais avec la réalité de notre société aujourd'hui, l'humilité, ça va bien avec les faibles, ça va bien avec ceux qui manquent de caractère. Mais si je regarde du point de vue de Dieu, de la réalité avec ce grand R, la réalité spirituelle, eh bien, l'humilité va puiser en Dieu ses propres ressources. L'humilité va dire ce que Dieu dit de moi en vérité. Waouh ! Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin ? Alors, pendant que j'écrivais, j'avais écrit à la fin, mais je l'avais mis en conclusion, mais bon, je vais le dire maintenant. Lorsque je dis au Seigneur, tu es mon Père, qu'est-ce qu'il nous dit en retour ? Tu es mon Fils. Waouh ! Lorsque je me détourne de mon estime de moi pour me concentrer sur l'estime de Dieu et de l'œuvre de Jésus-Christ, il me rend ma dignité. Lorsque je me tourne vers le Seigneur et que je fais comme le fils prodigue, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé, mon père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Le père lui dit, mon fils, qui était mort et revenu, voilà, faisons la fête, tuons le veau gras. N'est-ce pas extraordinaire ? C'est la parole de Dieu, quand je me détourne de moi, qui me rend ma dignité. Alors, peut-être pas besoin d'aller au séminaire hein, ou à des congrès, mais c'est peut-être me rapprocher plus du Seigneur et d'écouter sa parole qui me parle. Le philosophe Nietzsche a énormément de mépris pour le christianisme, et vous le savez. Il considère que c'est une religion de faibles et d'esclaves. Il regarde cela comme un angle, selon un angle humain qui ne correspond pas à la réalité. Hein ? J'ouvre une parenthèse parce que j'avais envie d'en parler aussi de cela. Le double regard, on peut regarder une chose avec, je dirais, la réalité physique, mais on peut aussi regarder les choses avec la réalité qui vient de Dieu. Une pauvre veuve vient dans le temple et met sa petite pièce qui correspond peut-être à 5 centimes dans le tronc. Voilà. Si on regarde de manière Et on n'a pas fait l'offrande, tiens, en fait, Franck. Si on regarde la réalité telle qu'on peut la voir, qu'est-ce qu'on voit ? Ben une pièce de 5 centimes, et c'est vraiment rien, très rien. Mais si on le regarde, cette petite pièce de 5 centimes, dans la perspective de la réalité avec un grand R, eh bien c'est toute la valeur d'un trésor qu'elle a donné cette dame. Elle a donné tout ce qui était de son nécessaire. Vous voyez ? C'est comment un double regard est porté sur nos situations ? Alors, on va un petit peu regarder comment se caractérise l'humilité. Comment se caractérise l'humilité selon la parole de Dieu ? L'humilité, elle reconnaît d'abord son état de dépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme humble reconnaît qu'il a besoin de Dieu et que tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, lui vient du Seigneur. L'homme humble, quand je parle de l'homme humble, mesdames, c'est les dames humbles aussi. Voilà, l'homme humble est donc dépendant de Dieu. Mesdames, vous pouvez applaudir, je ne vous ai pas oublié. L'orgueil n'est pas un sentiment qui est conforme à la réalité de Dieu. Et Paul va le dire à sa manière, il dit... Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Pourquoi tu en tires orgueil ? Comme si tu ne l'avais pas reçu. L'orgueil ne correspond pas à la réalité, grand R, du Seigneur. L'orgueil, c'est un sentiment qui correspond peut-être à la réalité de notre société, mais ne correspond pas à la réalité avec le Seigneur. Alors, l'homme humble ne se déprécie pas, ça c'est de la fausse humilité. Au contraire, il apprécie les dons que Dieu a mis en lui, il apprécie ses réussites, mais il en reconnaît la source. Cela vient du Seigneur. Et donc, une des marques aussi de l'humilité, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. La louange est un signe de l'humilité. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est à toi, c'est toi qui me l'as donné. Même si j'ai des compétences en termes musicaux, en termes de prédication, cela ne vient pas de moi, c'est toi qui me donnes. Si j'ai des paroles de prophétie et que je donne à l'Assemblée, cela ne vient pas de moi, c'est toi, Saint-Esprit, qui le donne pour édifier l'Assemblée. C'est toi. Et donc la louange, merci Seigneur, parce que tu te sers de moi dans ce que je suis. Dans mes dons et dans mes compétences. L'homme humble reconnaît donc qu'il a des limites, mais ces limites ne sont pas source de frustration, mais elles sont source de progrès. L'homme humble est enseignable. L'humilité est toujours à l'écoute, et toujours à vouloir dire « Seigneur, je veux progresser avec toi ». Je veux que tu me fasses conduire plus loin avec toi. Et le livre des Proverbes est riche. Je suis sûr que vous avez tous lu le livre des Proverbes maintenant. Je sais que dans les réunions maison, ils ont lu. Je sais qu'aux ateliers du maître, ils lisent. Je sais que dans les maisons, ça parle. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, le livre des Proverbes est riche de cette idée de progrès. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'exhortations sur l'écoute. Écoute, mon fils, écoute, écoute. Parce qu'en écoutant, on apprend. En écoutant, on apprend. L'homme humble dit au Seigneur, fais-moi grandir en toi, fais-moi grandir en toi. Conduis-moi, fais-moi progresser, que ma vie te glorifie davantage. L'homme orgueilleux, lui, croit tout savoir. Hein ? Il sait tout, il a tout vu, il juge de tout. L'homme orgueilleux est omniscient, enfin de son point de vue, hein ? Alors, j'ai lu cette semaine un bon mot quand même. Et j'aime les bons mots. Alors, moi j'apprécie ce genre d'humour. J'espère que ça va vous impacter. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait sourire. Ça m'a même fait rire. Voilà. Quelle est la différence entre Dieu et nous ? La différence essentielle, c'est que Dieu ne se prend jamais pour nous. Alors que nous, on se prend parfois pour Dieu. L'homme humble sait rester à sa place et s'attend à Dieu de manière continue. Alors j'ai dans ma définition de l'humilité que l'humilité est une juste appréciation avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. Alors parlons des rapports avec les autres, parce que l'humilité, c'est facile d'être humble lorsqu'on est tout seul, mais lorsqu'on est en communauté, hein, c'est là que l'humilité est en confrontation avec les autres. Voilà. Alors l'homme humble, eh bien, ce qu'il a appris de lui dans sa relation avec le Seigneur, il va l'appliquer bien sûr à lui, mais il va aussi l'appliquer aux autres. Il sait que les autres, ses frères, ses sœurs, dans la communauté chrétienne, sont aussi limités que lui, sont aussi dépendants que lui, que leur prière est la même prière qu'il fait. Et l'apôtre Paul va parler ici par honneur, Romains 12, 15, je l'ai marqué, oui, voilà, user de prévenance réciproque, de réciprocité. L'homme humble ne se sent pas en danger lorsqu'il est confronté aux autres, lorsqu'il est confronté avec ses... Alors peut-être pas le mot confronté, on va l'enlever, lorsqu'il est en rapport avec ses frères et sœurs dans la communauté, parce que, eh bien, il est en sécurité, hein, parce que Dieu le garde, il est son bouclier, comme il a été dit, mais il est aussi le bouclier de son frère et de sa sœur. Hein. Alors, l'homme humble... Et ce que Dieu veut de lui, il n'a rien à prouver, il n'a rien à démontrer, il est juste ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et écoutez Paul, ce que dit l'apôtre Paul à son sujet, alors qu'il était lui-même, alors là, oui, vraiment, en confrontation avec des gens qui essayaient de le déstabiliser, qui essayaient de ridiculiser son ministère, qui lui disaient « Paul, toi, tu n'as pas connu Jésus, alors laisse-nous parler un peu et va, retourne dans ton désert, là-bas, sur le chemin de Damas. » Non. Et l'apôtre Paul va dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Ça, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? La grâce de Dieu n'a pas été vaine envers moi. Alors, l'homme humble sait qu'il est enseignable, mais il sait aussi que Dieu peut se servir des autres pour l'enseigner. Et que réciproquement, le Saint-Esprit peut se servir de lui pour servir les autres. Et ça, c'est la réalité de l'Église locale, de la communauté locale. Dieu se sert des uns et des autres pour que nous puissions être instruits les uns par les autres. Et c'est le fruit de l'humilité. Il va accepter le don d'autrui comme il est capable lui-même de mettre au service de la communauté le don que le Seigneur lui a donné. Voilà. L'homme humble sait qu'il est limité et donc que les autres peuvent l'aider dans ses besoins. Il sait, parce que les autres aussi sont limités et que lui-même peut les aider dans leurs besoins. L'Église, la communauté chrétienne, est une source d'entraide réciproque. Réciproque. L'homme humble sait qu'il n'est pas dans la toute-puissance. L'homme humble sait qu'il peut faire des erreurs et commettre des péchés. Il sait que les autres ne sont pas dans la toute-puissance et qu'ils peuvent commettre aussi des erreurs et des péchés. Alors l'humilité apprend le pardon réciproque. Il sait qu'il a besoin de la grâce, il sait que ses frères, ses sœurs ont aussi besoin de la grâce. Alors mes amis, où est l'école de l'humilité? Où elle se trouve? Quel en est le chemin? L'humilité vient de notre voisinage avec le Seigneur. Elle vient du ciel, l'humilité. Jésus a incarné l'humilité la plus parfaite qui soit, et il le dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Où est-ce que vous voulez apprendre le mieux l'humilité? C'est en vous mettant, c'est en nous mettant à l'école de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, un roi Le roi de l'univers est venu, il a habité au milieu de nous. À ceux qui l'ont reçu, elle lui a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Il s'est présenté à Jérusalem, une foule l'attendait. Cette foule a étalé des vêtements sur la terre, a pris des branches de palmier pour le saluer. La foule criait. Il n'y en a qu'un. Antoine ne fait pas une foule, hein, lui tout seul. Hein. Hosanna, 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 sauve Seigneur. C'est ça que ça veut dire, Hosanna. Sauve Seigneur, sauve, sauve-nous, sauve-nous. Et alors que nous lisons ça dans les évangiles, c'est marqué, il accomplit les Écritures. Et c'est le texte de Zacharie 9:9 qui est cité. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble et monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Alors cette entrée à Jérusalem va inaugurer la semaine de Pâques. Nous commençons la semaine de Pâques, où l'humilité de notre Sauveur a pris toute sa plénitude, frères et sœurs. C'est dans cette semaine qu'il met le comble à son amour. C'est dans cette semaine, les jours qui précèdent son arrestation, où il va se ceindre d'un linge et qu'il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. C'est durant cette semaine qu'il partage le pain et le vin avec eux, comme nous l'avons fait ce matin. C'est durant cette semaine qu'il accepte à Gethsémani la coupe de nos souffrances et de nos péchés. C'est durant cette semaine qu'il y a 2000 ans, eh bien, il a accepté d'aller à la croix, d'être cloué comme un malfaiteur. Et qui dans sa génération a reconnu le bras de l'Éternel ? Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il portait. C'est pour nos péchés qu'il a été maltraité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors je ne peux que vous conseiller, travaux pratiques cette semaine. Lisez les récits de la Passion jusqu'à dimanche prochain. Et dimanche prochain, on aura un culte spécial, parce qu'on va célébrer quoi ? Pâques, la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur. Waouh ! Ensemble, source de joie. Pas simplement une commémoration de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais comme la réception aujourd'hui de que notre Seigneur est vivant, dans un cœur à cœur avec lui. Et on va vraiment le remercier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait d'autres proverbes dans le livre des Proverbes qui nous enseignent sur l'humilité. Je voudrais en citer encore un autre. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Notre Seigneur est venu humble, il est resté humble, mais en même temps dans son humilité, eh bien, il a reçu toute la gloire de toute la création et la gloire de son Église qui le célèbre dimanche après dimanche, et pas seulement que dimanche après dimanche, tous les jours, tous les instants de la part de ses bien-aimés. Alors, pour conclure, si vous voulez, je vais lire ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de notre Seigneur en humilité. Donc Philippiens chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par parti, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ta parole arrose nos cœurs, nos âmes, notre esprit. Et qu'elle féconde, Seigneur Jésus, ce cœur que tu as racheté. Et Seigneur, fais pousser en nous, Seigneur, les fruits qui existaient en toi, Seigneur Jésus. Notre plus cher désir que par ton esprit nous te ressemblons, Seigneur. Et que notre communauté, Seigneur Jésus, notre Église, notre assemblée, Seigneur, resplendisse, Seigneur Jésus, de ton humilité et de ta gloire. Seigneur, à toi la gloire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.